on associe volontiers les TIS à un outil froid, en contradiction avec l'expression de la sensibilité littéraire. Je voudrais montrer, en rapportant certaines étapes d'une séquence élaborée l'an dernier pour l'une de mes classes de lycée en seconde, qu'il n'en est rien, bien au contraire. Ce sera donc le point de départ de notre rubrique « Le sujet du jour ». Au cours de l'année scolaire 2009-2010, dans le cadre de l'objet d'études portant sur un mouvement littéraire et culturel, je choisis d'aborder une séquence centrée sur la sensibilité romantique. Dans ce cadre, l'analyse des textes littéraires est associée à celle d'images et de sons. Comme de nombreux collègues qui font étudier le romantisme, j'ai tout d'abord recours à des supports picturaux. Je demande aux élèves de rechercher sur Internet un tableau de l'époque romantique adapté au passage étudié. Cette confrontation peut se faire en classe grâce à un logiciel comme PowerPoint ou grâce au TBI. Avec ces outils, on peut aisément projeter l'image et le texte sur un même écran et stimuler une participation active. Lors de cette séquence, la confrontation la plus riche est réalisée lorsqu'un élève suggère d'illustrer un extrait du chapitre 10 de la première partie du Rouge et le Noir à l'aide du fameux tableau de Gaspard Friedrich, Le voyageur contemplant une mer de nuages.
Julien prenait haleine un instant à l'ombre de ces grandes roches, et puis se remettait à monter. Bientôt, par un étroit sentier à peine marqué, et qui sert seulement au gardien des chèvres, il se trouva debout sur un roc immense, et bien sûr d'être séparé de tous les hommes. Cette position physique le fit sourire. Elle lui peignait la position qu'il brûlait d'atteindre au moral. L'air pur de ces montagnes élevées communiqua la sérénité et même la joie à son âme.
Cette confrontation est d'autant plus fructueuse que peu à peu, les élèves ont l'impression que les deux œuvres s'éclairent mutuellement. Jusqu'au moment où l'un d'entre eux émet cette remarque. Quand on observe la profondeur du paysage de montagne à l'arrière-plan du tableau, on a l'impression de voir le silence décrit dans le texte. Grâce à la recherche menée, cet élève a donc su s'imprégner de la sensibilité romantique présente dans Le Rouge et le Noir et la communiquer à ses camarades. Et ainsi, peu à peu, de la sensibilité aux choses vues, on est passé à la sollicitation des perceptions auditives. C'est pourquoi la classe a pu aborder dès la séance suivante le lyrisme romantique, et cela grâce à l'étude du poème « Fantaisie » de Gérard de Nerval.
Il est un air pour qui je donnerais tout Rossini, tout Mozart et tout Weber. Un air très vieux, languissant et funèbre, qui pour moi seul a des charmes secrets.
Après l'écoute collective d'une lecture de ce poème donné par Alain Cuny et proposé sur un site web, l'étude menée en classe permet d'associer immédiatement l'expression des sentiments nostalgiques du poète à la dimension musicale de son œuvre, révélée par le vocabulaire employé, par la cadence de ses vers, mais aussi par la référence à trois musiciens particulièrement appréciés des romantiques. Pour éclairer l'ensemble de la classe sur la présence de ces musiciens dans le texte, un élève est chargé de se détacher du groupe et d'aller chercher en autonomie des renseignements grâce à l'ordinateur de notre salle relié à Internet. Lorsqu'il rapporte le fruit de son travail, il s'avère que plusieurs élèves connaissent ces compositeurs. Certains d'entre eux maîtrisent suffisamment bien un instrument pour proposer au reste du groupe un concert au cours duquel ils souhaitent faire découvrir la sensibilité romantique grâce à leur propre interprétation. Ainsi, du texte poétique écouté et analysé, va-t-on passer grâce à eux à la découverte des sources mêmes du lyrisme, la musique. Pour que ces élèves accèdent rapidement aux partitions, je leur conseille de les imprimer gratuitement par le biais d'International Music Score Library Project, un site lié à Wikipédia qui propose des documents totalement libres de droit. Le concert a lieu un matin à 8h dans la salle de musique. Monsieur Simolino, proviseur du lycée Charles Péguy, est invité pour l'occasion. Un diaporama PowerPoint permet, au fur et à mesure de l'audition des pièces musicales, de découvrir l'origine et la sensibilité particulière des différents compositeurs. se succèdent des interprétations en duo ou en solo, au violon, à la guitare et au piano, dans des œuvres de Paganini, Schumann, Chopin et Beethoven. On peut retrouver un témoignage visuel de cette séance sur le site du lycée Charles Péguy. Les élèves ont particulièrement soigné leur interprétation pour transmettre les émotions contenues dans leurs morceaux à leurs camarades. Ceci montre une attention et un respect extrême, même ceux qui, habituellement, ont du mal à se concentrer durant une heure de cours. Cette émotion est particulièrement vive à l'occasion d'une interprétation au violon. Après avoir évoqué l'âme de cet instrument, ce petit cylindre qui permet la vibration du son et qui souligne l'émotion contenue dans les œuvres romantiques, nous parvenons à une manière de définition du lyrisme qui serait l'expression de la musique de l'âme. Ces moments exceptionnels marquent la scolarité d'un élève comme la carrière d'un professeur. Cependant, ce dernier ne perd jamais complètement de vue ses objectifs pédagogiques. La fin de la séquence consacrée au romantisme doit être organisée autour de la rédaction d'un commentaire. Je choisis, dans la continuité des travaux précédents, le texte d'un air de l'opéra Werther de Massenet, intitulé « Traduire, pourquoi me réveiller ?». La préparation collective en classe du devoir, qui sera rédigée à la maison, permet de rappeler la dimension européenne de la sensibilité romantique, car le texte est extrait du livret d'un opéra français, qui a comme héros un personnage de la littérature allemande, qui lui-même invoque au début de son air le barde écossais Ossian. Certains élèves me signalent même, au cours du texte, qu'ils retrouvent le voyageur, le fameux Wanderer, du tableau de Friedrich.
Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps ? Demain, dans le vallon, viendra le voyageur, se souvenant de ma gloire première. Et ses yeux, vainement, chercheront ma splendeur. Ils ne trouveront plus que deuil et que misère. Hélas ! Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps ?
L'analyse de la sensibilité romantique d'un tel texte se construit autour de motifs et de registres valorisant les émotions du personnage. Pour aider les élèves à concevoir leurs commentaires, je souhaite leur montrer comment le texte et la musique s'enrichissent mutuellement, comme précédemment le roman et le tableau. Je leur suggère donc d'écouter lors de la préparation à la maison, sur Internet, la version célèbre du ténor espagnol Alfredo Cross. Le lien que je leur indique permet de visualiser sur leur écran chaque vers du texte tout en écoutant simultanément l'interprétation chantée. La correction des copies me convainc que la séance musicale précédente a stimulé les facultés sensibles de mes élèves. Mais l'une d'entre elles va au-delà de mes attentes en voulant associer au texte étudié non seulement la musique mais aussi l'image. Elle me propose donc un autre lien Internet permettant de suivre la captation d'un spectacle au cours duquel le jeune ténor allemand Jonas Kaufmann interprète Werther. L'élève explique à ses camarades, après la diffusion de ce petit film, que celui-ci lui a permis d'être attentive à la voix et à la musique orchestrale, mais en plus, grâce au décor et au costume qui situent la scène dans le temps, grâce à la jeunesse, à la prestance et à l'engagement physique du chanteur, elle a compris que lorsque le texte romantique s'incarne, il parvient vraiment à toucher la sensibilité d'un jeune de notre époque.
De la musique de l'âme, toucher un jeune de notre temps, les deux expressions que vient de nous tendre M. Bounik rappellent les termes de l'enjeu. Au cours d'une période longue qui succédait à la Seconde Guerre mondiale, le travail de l'école s'est déployé sur un arrière-plan de consensus social. Les valeurs culturelles à transmettre étaient reconnues de tous, collectivement partagées, même si elle n'était pas toujours accessible à certains élèves. Aujourd'hui, cette connivence est à construire ou à reconstruire pour tisser une toile de fond qui fasse sens, notamment en prenant appui sur la place qu'occupe aujourd'hui la dimension sonore dans la société. Lorsqu'on parcourt les programmes de lettres et les dispositifs en vigueur, on voit que l'école s'emploie à cette construction culturelle. Au collège, on citera plus particulièrement l'instauration du socle commun et à l'intérieur de celui-ci, la compétence 5, construire une culture humaniste, et les compétences 6 et 7 qui visent l'initiative et l'autonomie. L'introduction d'un enseignement d'histoire des arts également, qui demande aux élèves de fédérer savoirs et connaissances à travers les disciplines. Au lycée, on peut distinguer dans les programmes de lettres l'accent mis sur la notion de mouvement littéraire et culturel, nous venons de le voir, et l'introduction également d'un enseignement d'exploration, littérature et société, enfin des démarches comme celle des TPE, travaux personnels encadrés, qui contribuent comme au collège au travail de circulation. On mesure donc qu'un enjeu de cette nature ne peut être atteint par le seul truchement du cours et qu'il demande un projet et une démarche de projet. Alors, monsieur le proviseur, vous avez assisté à cette présentation. Quel témoignage pourriez-vous donner ?
Alors, ce que j'ai constaté pour ma part, eh bien, après avoir assisté à ce cours, c'est tout d'abord, je dirais, le sérieux des élèves, la qualité d'écoute, mais au-delà de, j'allais dire, de l'ambiance du cours, j'ai pu mesurer aussi l'investissement des élèves, et c'est ça qui m'a frappé essentiellement à travers, par exemple, le respect qu'ils manifestaient pour les interprétations musicales de leurs camarades, mais aussi à travers leur participation. Ça m'a permis de mesurer également la qualité des interventions des élèves, la pertinence de leurs réponses, puis aussi l'originalité des propositions qu'ils faisaient sur les sollicitations de leurs professeurs. Et donc, pour conclure, je dirais, l'impression d'avoir assisté à une séquence où il y avait une totale adéquation entre, d'un côté, les objectifs et la construction du cours, et de l'autre, l'intérêt, l'investissement des élèves et la manière dont ils ont été actifs tout au long de la séquence.
Un projet de la sorte ne peut pas réussir sans un accompagnement de l'établissement. Alors, comment le chef d'accomplissement, le chef d'établissement accompagne-t-il un projet de cette nature ?
Alors, tout d'abord, il ne s'agit pas uniquement du chef d'établissement, je dirais l'équipe de direction. Mais le fait est que l'équipe de direction joue un rôle important. Dans un premier temps, la première chose à faire, je dirais, c'est la manière d'accueillir le projet. Ça me paraît très important parce que le professeur ou l'équipe arrive avec un projet qui a suscité des désirs, des envies, peut-être déjà du travail. Et je dirais le premier rôle du chef d'établissement, de l'équipe de direction, c'est de soutenir ce projet, de l'accueillir et puis de le valoriser. Alors, bien entendu, dans un premier temps, en apportant, je dirais, le minimum, c'est-à-dire le soutien matériel, l'aide au fonctionnement, l'aide à la mise en place, mais aussi l'accompagnement sur toute la durée de ce projet, parce qu'on a parfois des projets ambitieux, heureusement, et puis sur des durées assez longues. Mais d'une certaine manière, ça ne suffit pas. Il faut aussi penser que le projet, on va pouvoir le soutenir d'une autre manière quand on est une équipe de direction. On va pouvoir travailler aux côtés du professeur ou de l'équipe à sa pérennisation. Il va falloir aussi peut-être songer d'une certaine manière à sa dissémination comment le projet va pouvoir essaimer dans l'établissement, comment il va pouvoir intéresser d'autres collègues, et puis penser également à la manière dont on va l'ancrer dans le projet d'établissement et dont on va communiquer aussi ce projet, communiquer autour de ce projet, c'est-à-dire que, eh bien, il faut que les équipes de direction soient un peu, se sentent un peu les porteuses, en quelque sorte, et les, comment dire, les communicantes autour des projets des professeurs. Ça me paraît également important.
L'établissement en retire-t-il un bénéfice ?
Alors, je dirais que le bénéfice pour l'établissement, c'est avant tout le bénéfice pour les élèves. Ce que je veux dire par là, c'est que ça vaut d'ailleurs, me semble-t-il, pour l'utilisation des TIS en général. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que avant d'utiliser tel ou tel moyen pédagogique, le professeur et peut-être, dans le meilleur des cas, les élèves vont bâtir des hypothèses, vont bâtir des problématiques. Il va ensuite y avoir la séquence de travail et de recherche. Et ce qui va être intéressant, c'est ce qui se passe après. C'est, par exemple, une fois qu'on a trouvé de la documentation, une fois qu'on a amassé un certain nombre d'éléments, les liens que l'on va réussir à construire entre tous ces éléments, et bref, le travail d'argumentation qui va commencer à ce moment-là. Et là, je trouve qu'on est tout à fait dans un des aspects fondamentaux, dans une des missions fondamentales de l'école, qui est à la fois de l'ordre du pédagogique et de l'éducatif, parce qu'on va progressivement accompagner les élèves sur un travail qui est à la fois un travail critique et un travail de construction de soi et de construction des compétences. Et c'est à cet égard que, effectivement, les TIS sont un moyen privilégié de construire à la fois ces compétences et de construire la personnalité des élèves.
Vous me tendez un élément de conclusion. L'IPR de lettres voudrait en effet, pour conclure, mettre l'accent sur l'aspect stimulant de ce projet qui allie littérature et musique. Si depuis longtemps, en effet, les programmes de lettres se sont ouverts à la peinture et de manière plus générale à l'image, la présence de la musique reste encore très discrète dans la relation à la littérature, alors que nous connaissons tous la sensibilité parfois envahissante et exacerbée de la dimension sonore dans la culture des élèves.